Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs du Son des Bulles, l'émission entièrement dédiée à la bande dessinée sur RCN 90.7. Alors, c'est Olivier qui vous parle et j'ai la joie de co-animer cette émission avec celui qui, au temps du Far West, aurait pu être David Crockett, mais il a choisi d'être David Bubble et on s'en réjouit. Bonjour David, comment ça va ?
Bonjour Olivier, bonjour à tous, émission radio de Son des Bulles. Bonjour à Francine, bonjour à Charles qui nous font l'immense honneur d'être avec aujourd'hui. C'est une joie de se retrouver donc après cette pause estivale. On espère que vous avez profité de bien vous reposer en lisant plein de BD, des belles histoires, en remplissant vos bibliothèques de nombreux ouvrages. On reprend les bonnes habitudes. On va se retrouver tous les premiers jeudis du mois pour partager notre passion de la bande dessinée. Comme vous le savez, à chaque émission, sa petite thématique. Oui. Et aujourd'hui, nous allons chevaucher dans le Far West et vous faire découvrir la BD de Western.
Et voilà, et alors pour vous emmener dans les paysages de l'Ouest américain, nous avons avec nous celle qui décroche des interviews plus vite que son ombre et qui, avec sa consoeur Anne-Laure, sont les plus fines plumes des chroniqueuses de l'Est. Je veux parler de Francine. Bonjour Francine.
Bonjour à tous.
Ça va bien ?
Ça va.
Passez un bel été ?
Ouais, bah oui, il faut bien.
Et oui, une belle lecture ?
Beaucoup de lectures.
Comme
oui.
Ça, là, une lecture de l'été que tu as aimée ?
Lecture de l'été que j'ai aimé. Oh, j'en ai tellement lu.
Il n'y en a pas une qui ressort du lot ?
Non.
Non.
Sur donc l'été, non. C'est sur la rentrée. On en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure.
Très, très bien.
Ensuite.
Alors, petite anecdote, du coup, on parle de...
On présente donc Charles.
On présente Charles, bien sûr. Et puis, c'est bien sûr. Et puis, c'est Charles qui est... Alors, si Charles Ingalls savait couper du bois, bah, notre Charles à nous, hein, nous sait faire voyager dans les siècles d'avant pour nous replonger dans l'histoire avec un grand H. On cherchait de la bande dessinée. Charles, c'est quoi ta plus belle lecture des vacances ?
I'm very glad to be with you to tell about my friend the cowboy. Yes.
Yes. Fine. What's all ?
Oui. Alors, go. Donc, on va parler du cowboy.
Ah oui. Yes, c'est bon, ça. Okay. Alors, on n'oublie pas non plus nos copains et nos copines,
oui. Hein,
qui sont retenus par des affaires très importantes. Un gros bisou à Anne-Marie, Françoise et Jean-Jacques, qui doivent bien sûr nous écouter derrière
un gros bisou, bien sûr.
Ah, bien sûr.
Complètement.
Oui. Et David.
Oui.
un grand bonjour et merci aussi à Jean-Luc.
À Jean-Luc, merci Jean-Luc.
Hein. Jean-Luc, toujours un as dans la manche qui est prêt à nous faire du bon son et à vous rendre l'écoute très agréable.
C'est ça, effectivement. Un peu comme un pianiste dans un saloon quelque part, hein, qui est prêt, très professionnel, alors que là, les autres se bagarrent dans la...
Complètement. On est tout de suite dans l'ambiance.
On est dans l'ambiance. Ouais. Mais tout de suite, Olivier va nous faire un petit panorama du genre western en BD.
Ah, on va commencer, c'est vrai, c'est vrai. Les grandes plaines, les indiens, les cow-boys, les bisons, les hors-la-loi, les duels. Le Far West a suscité et suscite toujours une sorte de fascination pour le public. Alors très tôt, la littérature s'est emparée du thème, avec par exemple Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper en 1826. Donc ça remonte à assez loin. Et puis après, quelques temps après, il y a eu les célèbres spectacles live, dont le Wild West Show de Buffalo Bill, dont David va nous parler un petit peu.
Je vais vous en parler vite fait. Alors, c'est une petite anecdote, mais qui a son importance. Le Wild West Show de Buffalo Bill, à la tête d'une bande de Rough Riders, des hommes issus d'ethnies de provenance très diverses, dans un grand spectacle ambulant, de passage à Nancy le 19 et 20 juillet 1905.
Tu l'as vu, Charles ?
Oui, oui.
Il y a pas mal de collectionneurs de tous les objets, des affiches, des photos. Il y a beaucoup de documentation sur le... Passage, c'est marrant, à la Californie.
J'allais y venir. Alors, William Frederick Cody, hein, de son alias Buffalo Bill, 1846-1917, débarque à Jarville le 19 juillet 1905 pour y présenter son spectacle, le West Show, retraçant les grandes épopées de l'époque de la conquête de l'Ouest, 3 trains spéciaux pour le matériel, des animaux, du personnel technique, des artistes, 800 hommes, 100 indiens, et oui, il les a ramenés, 500 chevaux, Buffalo Bill, la légende du Far West, tantôt trappeur, mineur, cavalier du Pony Express, éclaireur de l'armée, où il tua également 3000 à 4000 bisons en 18 mois, et oui monsieur, 18 mois, pour nourrir tous les ouvriers de la compagnie du chemin de fer Kansas Pacific Railroad. un sacré tueur quand même, devant défenseur des Indiens après avoir combattu des Cheyennes et des Sioux qui étaient de l'armée, c'est quand même un homme étrange, devenu homme d'affaires bien entendu. La fameuse caravane traversa Verdun, Épinal, Lunéville, Belfort-Besançon, donc le Waiwacho, donc c'est la tournée européenne. Il entra en gare de Nancy à Jarville dans le quartier de la Californie, comme tu le disais Charles, effectivement. Hein, le journal L'Impartial, à l'époque, la foule est au rendez-vous, on a droit au Little Bighorn, à l'attaque de la diligence de Deadwood, des centaines de peaux rouges excitent la curiosité drapée qui sont dans leurs costumes multicolores avec leur teint rouge bariolé de raies jaunes. Le tarif, 1,50€. Jusqu'à 8, jusqu'à, enfin, 1€. Un franc. Mais le salaire journalier de l'époque, quand même, c'est 5 francs. Donc imagine, c'était une somme tout de suite hein, pour se payer ce fameux festival. Ah
bah, hein. C'est digne des grands concerts.
Voilà.
Là,
hein. Ah oui, complètement. C'était une vedette. Hein. Voilà. Voilà pour la petite anecdote du Buffalo.
Du Buffalo.
Oui, ouais, mais il traînait, je ne sais pas combien de personnes, c'était bien 2000.
C'est énorme. Incroyable.
Ah ouais, ouais. Je ne sais pas où se caser tout ça, en fait.
Trois trains.
Trois trains.
Trois trains au total, oui.
Alors, on va continuer sur ce petit historique. Hein. On a vu la littérature, les spectacles live. Le cinéma, lui aussi, a rapidement raconté des histoires de cow-boys. Le cinéma, je rappelle, c'est 1895, la mention. Et à peu près en 1903, c'est le premier western, The Great Train Robbery, de Edwin Stanton Porter. Et on sait le succès que ça a eu au cinéma par la suite. En BD, eh ben, c'est forcément outre-Atlantique, en Amérique, que ce genre va démarrer. Et là, je prends quelques instants, je change de chapeau pour prendre le Stetson de Vénérable Historien qui va si bien à Charles jusqu'ici pour son petit bond dans le millénaire d'avant. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, Charles, c'est non seulement le siècle d'avant, mais c'est le millénaire d'avant. C'est vertigineux.
C'est
incroyable. Ça fait peur. Moi, ça me... Alors, retour dans le passé. Début 1900, je vais faire un petit rapide historique, c'est l'essor des comic strips hein, dans les innombrables quotidiens de presse. À l'époque, il y a deux grosses compagnies de presse qui se font concurrence. Tous les moyens sont bons pour attirer les lecteurs et la bande dessinée va donc jouer un rôle important dans cette guerre commerciale. Les comic strips présents dans les journaux, dès la fin des années 1890, vont évoluer rapidement. Les lecteurs vont devenir accros à ces histoires qui créent un suspense d'une semaine à l'autre. Alors c'est l'époque du Yellow Kid, hein, on en a déjà parlé, ça, du Little Nemo, du Crazy Cat, de Pim Pam Pum. Pour fédérer un maximum de lecteurs, cette période a fait la belle part aux histoires comiques, d'où le nom des comics, et aux histoires familiales. Mais, bon, voilà, dans les années 20, le public a soif d'exotisme et d'aventure. Et c'est là qu'apparaissent les premiers héros, ouais, les vrais héros, ceux qui en ont dans le maillot, comme Tarzan.
Tarzan, hein, oui,
voilà. Et ceux qu'on a dans la combinaison spatiale, comme Buck Rogers. Voilà. Alors, et c'est à peu près à cette période que la BD de Western fait son apparition. En 1927, on voit les premières cases d'une histoire écrite par Harry O'Neill qui s'appelle Young Buffalo Bill, dont on a parlé tout à l'heure, et qui deviendra Bronco Bill quelques temps après. Suivront ensuite des héros comme Red Rider, Little Joe et White Boy. Milieu des années 30, les comic strips des journaux sont compilés dans des comics books. J'espère que je dis bien. Et ces albums de quelques dizaines de pages, d'une dizaine de centimes de dollars, et pas d'euros, vont devenir très vite populaires. Et un nombre incroyable de magazines va inonder le marché naissant. Et le genre western, là, va s'étoffer d'une multitude de séries. Des titres comme Jack Wood, Star Rangers vont apparaître dans les années 30. Et c'est surtout après la guerre, fin des années 40, jusqu'au début des années 60, que ce genre va atteindre son apogée aux dépens des super-héros, qui suscitait peut-être un peu moins d'intérêt à l'époque.
C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, t'as une espèce de vague à un moment donné, bon, super-héros, après, bon, ça décline un petit peu, c'est les univers de, enfin, les anciens univers de DC Comics, en fait, hein, Superman, Batman, c'est cette création. Cette création des premiers super-héros. Après, il y aura une petite baisse qui va, on va reprendre, comme tu disais, le style, le western, va revenir un petit peu à la mode, l'horreur, hein, l'horrifique, les extraterrestres aussi, hein, c'est les années 40, les années 50. Et puis, les Marvel vont apparaître, cette fois-ci, dans les années 60, où c'est à nouveau le regain des super-héros. Donc, il y a une espèce de vague un peu comme ça entre, super-héros, un genre différent, et puis on reprend les super-héros des années 60.
Tout à fait. Alors bon, là, c'était le côté Amérique, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on faisait quoi, dans le reste du monde, à ce niveau-là, au niveau du genre western? Et oui, alors, bon, en 1931, il y a bien le petit Tintin dans le 20e qui part en Amérique, oui. Mais bon, même s'il a vu quelques Indiens, on ne peut pas appeler ça un western, le Tintin en Amérique. Alors, pour un premier vrai cow-boy européen, il faut aller voir la même année, en 1931, dans Cœur vaillant, le Jim Boom de Marie-Jacques. Jim Boom, le chevalier du Far West. Une série connais, ça te dit quelque chose?
Oui, oui. Ouais.
C'est à peu près.
J'étais enfant de chœur, hein, donc chœur vaillant, je connais bien.
Ben voilà, Jim Boom aussi. Et donc voilà, c'était une histoire de cow-boy un peu humoristique au départ, et c'est devenu plus sérieux. Alors, c'est en Italie aussi, en 1948, sous la plume de l'écrivain Gianluigi Bonelli et le crayon de l'illustrateur Aurelio Gallepini, que naît Tex Willer. Alias Tex. Alors c'est une série remarquable à ce niveau, à ce niveau-là parce qu'il a une longévité énorme.
Et il y a beaucoup de BD italiennes qui sont parues dans les années 50, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Oui, ouais. Ouais. C'était, ouais, ouais. Notamment Blake Le Roc qui apparaît
oui,
dans ces...
Notamment, oui,
qui est fameux. Par le studio SGS, c'était les initiales de trois dessinateurs italiens.
D'accord.
C'était,
oui, oui, alors ça correspond, tu crois, peut-être aussi à la période des films aussi qui tournaient en Italie, avec les Sergio Leone, etc. C'était pas exactement la période là, c'est un peu plus tard.
C'est des années. Ça commence en 48, oui. Vers 50, et après ça a été repris dans les années 60 en France.
D'accord, c'est ça.
Okay. Mais oui. Okay. Donc,
Et ben voilà, donc ce fameux texte. Il est, depuis 1948, il y a toujours des histoires qui sont publiées.
Ouais, c'est dingue.
Hein? Alors ça, c'est incroyable par sa longévité. Charles, justement, tu nous parlais de quelque chose d'intéressant là, par rapport à ce western. Et toi, tu vas nous faire découvrir un héros.
Pecos Bill, the greatest cowboy of all time.
Oui. Oh.
D'accord. Alors oui, parmi tous les personnages emblématiques qu'on croise dans la grande épopée du western, il y a Buffalo Bill, on va parler, Calamity Jane ou les frères Dalton... Il en est un que tous les Américains connaissent, qui est particulièrement intéressant, parce qu'il n'a jamais existé. Je vais vous parler de Pecos Bill. Pecos Bill n'est pas un personnage historique, mais il est très représentatif de l'esprit des immigrants qui sont partis à la conquête de l'Ouest. Il est la synthèse de ces histoires racontées les soirs après une journée de chevauchée, chacun rajoutant une couche à des faits totalement improbables pour constituer des histoires extraordinaires que l'on nomme là-bas les Tall Tales.
Et qu'on traduit par
bah, les contes fantastiques, c'était
ah, voilà.
L'histoire à l'histoire la con. L'histoire à la con, en gros, quoi. Ouais.
À la conte.
Alors, personne ne sait qui en premier a eu l'idée de raconter l'histoire de Pecos Bill. Une première publication de ses exploits apparaît en 1923, la saga de Pecos Bill, écrite par Edward Reilly, et en 1938, le livre de James Cloyd Bowman, Pecos Bill, le plus grand cowboy de tous les temps, récompense les enfants studieux lors de la distribution des prix.
C'était
Bon.
T'en as pas eu, toi,
ça. Non, non, peut-être, j'ai pas le prix de Pecos, moi.
Pecos Bill serait né vers 1830 à l'est du Texas. Il était le dernier né d'une famille de 18 enfants. Bon, certaines traductions disent 14, mais enfin, bon, ouais, beaucoup ouais, d'enfants.
On n'est plus à 4 près à ce
niveau-là. Qui se battaient pas mal. Alors, le père de famille ayant appris que des colons s'étaient établis à 50 km de leur domicile, considéra qu'il n'était plus possible de vivre dans une telle promiscuité et décida d'émigrer vers l'ouest. Alors toute la famille se mit dans un chariot, enfin comme on connaît, et bon, les enfants chamaillaient, chahutaient, etc. Et le petit Bill tomba du chariot près de la rivière Pecos, d'où son nom.
C'est ça.
Voilà. Hélas, les parents ne s'aperçurent de la disparition du jeune Bill que lors du bivouac du soir. Malgré toutes les recherches lancées par les frères et sœurs, le petit Bill resta introuvable.
Ah mince.
Seul, perdu au milieu d'une contrée sauvage, le petit Bill ne dut son salut qu'à une meute de coyotes par laquelle il fut adopté. Il grandit parmi cette meute et devint un bon coyote, chassant le jour et hurlant la nuit en regardant les étoiles comme c'est l'usage chez les coyotes.
Chez les coyotes, voilà.
Oui. Un jour cependant, il fit la rencontre d'un cowboy qui s'étonnait de trouver un jeune homme nu, perdu dans cette contrée, loin de toute présence humaine. Le cowboy demanda au jeune garçon qui il était, lui répondit « Je suis un coyote ». Mais il dit « Qu'est-ce qui te fait croire que t'es un coyote ?» Eh ben, il dit « J'ai des puces ». Mais il dit, enfin, le cowboy répondit « Mais tout le monde a des puces, ça suffit pas pour être un coyote ». Et il dit « Et puis d'abord, t'as pas de queue ». Alors là, ben, le jeune Bill s'est retourné et il a vu qu'effectivement, il n'avait pas de queue, donc il n'était pas un vrai coyote. Voilà. Donc il a dit... Et il a dit au revoir à tous ses copains coyotes et il est parti avec le cow-boy pour apprendre le métier de cow-boy. Alors il est devenu rapidement un très bon coyote. Un très bon, un très bon cow-boy. Alors il apporta de nombreuses améliorations à la pratique du métier. C'est à lui notamment que l'on doit l'invention du lasso et la manière de capturer les animaux avec. On lui doit aussi la technique du marquage des bêtes au fer rouge pour identifier à quelle ranch elles appartenaient.
C'était un excellent cavalier. Il pouvait monter sans peine les chevaux les plus fougueux. D'ailleurs, son cheval s'appelait Widowmaker, c'est-à-dire le faiseur de veuves. Car quiconque, à part lui, essayait de le monter était sûr d'y laisser sa peau.
Ah, c'est bon. Ah oui, ça n'est rien que la peau, quoi.
Pecos Bill pouvait chevaucher tout ce qui paraissait impossible. Ainsi, lors d'une terrible sécheresse qui menaçait l'existence des troupeaux, il chevaucha un ouragan. Ouais, tiens, donc il y a même un... Il chevaucha un ouragan. Et il conduisit l'ouragan sur toutes les contrées qui étaient asséchées. Alors, c'était l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Voilà, il a conduit son ouragan là-dessus. Et l'endroit où il atterrit, ça a fait une dépression qui est connue maintenant sous le nom de Death Valley. Voilà.
Ah, et oui. C'est presque un super-héros, en fait.
Ah ben, tout à fait, mais alors... alors... Un jour, s'aventurait le long du Rio Grande, Pecos Bill aperçut une jolie jeune femme qui parcourait le fleuve en chevauchant un énorme poisson-chat. Ouais. Ah, ça a été le coup de foudre. Il tomba amoureux de cette jolie rouquine qui se nommait Slu Flotsu. Alors, Slu, généralement, en américain, c'est pas quelque chose de...
Ah, mais c'est pas son nom indien, ça se trouve.
Enfin, bon... Donc, il fit une cour assidue à cette dernière qui accepta de devenir son épouse. Cependant, le jour du mariage, Slu Futsu eut une très mauvaise idée. Elle voulut absolument chevaucher Widowmaker, le terrible bronco de Pecos Bill. Le résultat ne se fit pas attendre. Le cheval fit une terrible lambardée qui projeta Slu Futsu dans les airs. Mais lorsqu'elle est retombée, elle est tombée sur les arceaux, vous savez, qu'on mettait sur les jupes des dames à cette époque-là, qui ont fait ressort. Ce qui fait qu'elle a rebondi. Elle est retombée, mais de plus en plus fort. Donc, ça devenait compliqué. Donc, heureusement, Pecos Bill a pris son lasso et il a attrapé Slu Futsu avec son lasso. Mais comme le mouvement de va-et-vient était de plus en plus fort, ils ont été emportés tous les deux et on pense qu'ils sont arrivés sur la Lune où, aujourd'hui, certainement... Pecos Bill et Slu Futsu vivent là-haut avec leurs nombreux enfants.
Alors, on va vérifier.
Eh bien oui. Alors,
la NASA,
les aventures de Pecos Bill ont été traduites en bande dessinée. Alors c'était à partir de 1949 en Italie. Alors, de nombreux dessinateurs se sont attelés à la production de cette série. Et on retrouve parmi eux quelques pointures. Gino D'Antagno, Dino Battaglia, qui a été longtemps le collaborateur d'Hugo Pratt, et surtout, Victor de la Fuente, bien connu en France pour sa participation au journaux Pilote Charlie et mensuel, et qui est un des créateurs de la revue BD À Suivre, un artiste qui nous a créé en 2010 et que beaucoup considèrent comme le plus grand dessinateur espagnol de BD réaliste. En France, les 166 épisodes de la série ont été publiés par les Sage Éditions au cours des années 60. Notons que les studios Walt Disney ont produit en 1948 un dessin animé de 25 minutes que l'on peut voir sur YouTube, tout le monde peut le voir. Et curieusement, il n'y a pas eu d'autres adaptations cinématographiques de... parce que c'est un peu difficile quand même.
Parce que
à côté de Pecos Bill, le Baron Munchausen, c'est de la rigolade. Donc il n'y a pas de film d'épisode connu de Pecos Bill, The Greatest Cowboy of All Time.
L'appel et l'offre est lancée. On peut y aller. Bravo. On lance l'offre pour les réalisateurs.
Ceux qui veulent se lancer dans l'histoire de la mise en image de Pecos Bill, et pourquoi t'essaierais pas, toi qui es maître du dessin animé maintenant?
Après Walt Disney, il est pas mal. J'ai regardé sur YouTube, mais ça reprend surtout des chansons des pionniers qui sont mis en image. Mais on voit quand même l'histoire de Slu Futsu qui conduit son poisson-chat.
Il y avait quand même une sacrée imagination.
C'est des histoires que tous les gens se racontaient les soirs. Plein de détails. Par exemple, son lasso, c'était un serpent. C'était un lasso qui faisait 50 mètres, était serpent.
D'accord.
Qu'il avait tué. Enfin, c'est tous les détails, tout, même les fers de son chevaux, tout est. C'était l'objet de l'histoire.
Mais voilà. Merci. Ouais, moi, je tire mon chapeau.
Donc, c'était, si vous avez bien travaillé dans les années 30 aux États-Unis, c'était la distribution de ces prix, l'histoire de Pecos Bill.
Ah ouais. Et ben ça, j'aurais bien voulu. Et ben on va faire une petite pause, David.
Ah ben on fait une petite pause.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Eh ben,
le cowboy
d'Aubervilliers
de Michel Mallory.
C'est moi, cowboy d'Aubervilliers, chapeau, c'est un béret. Mon cheval, c'est un Solex, j'aimerais qu'on m'appelle Tex. Mais mon vrai nom, ben, c'est René. C'est moi, cowboy d'Aubervilliers. Même que mes copains d'atelier, dès que j'ai le dos tourné, disent que je suis cinglé. Eux qui ne savent pas rêver. Il y a long, 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 longtemps que je l'attends. De voir le texte, c'est le Nevada. Mais le métro va pas jusqu'à là-bas. I am the cowboy from Aubervilliers. I am très connu pour son perret. Mais je travaille chez Renault, c'est un sacré boulot pour un cowboy d'Aubervilliers. Je suis plus rapide que le grand Billy. Le grand Billy de Juvisy. Mais mon grand ennemi, c'est Joe Champigny. Un jour ce sera moi ou lui. Il y a longtemps que j'attends. De voir le Texas et le Nevada. Mais le métro va pas jusqu'à là-bas. Dans mon ranch à Aubervilliers, si une fille pouvait m'aimer, on s'en irait à deux. Et on serait heureux dans les prairies d'Aubervilliers, nous les cow-boys d'Aubervilliers.
Le son des bulles sur RCN.
Eh bien, c'est le retour de notre bonne équipe. Eh bien, on va continuer un petit peu la saga western en restant dans l'univers du franco-belge.
Et oui, hein, on continue ce petit historique là du western et on va partir du côté franco-belge. Parce que c'est dans les années 1950 que les auteurs dégainent leur série. Et deux titres vont faire la vedette dans le journal de Spirou. Facile.
Allez.
1946.
Mm-hmm. Ah oui, c'est de Jigé qui était...
Alors, ben, je croyais comme toi, en fait. Et 1946, c'est Lucky Luke.
Jerry Spring, non ?
Alors, il est venu après Jerry Spring. Il est venu après Jerry Spring.
Oui.
Alors, en 46, c'était Lucky Luke,
le premier
Maurice, et puis Maurice et Goscinny par la suite. Et Jerry Spring, de Jigé, effectivement, est venu en 1954. Et depuis, il y a eu 22 titres jusqu'en 1990. Et donc ça, c'était les deux titres de Spirou. Et en 1963, le 31 octobre, dans le numéro 210 du journal Pilote, à la sixième case de la première planche de Fort Navarro, là c'est quand même très précis, apparaît pour la première fois Mike Steve Blueberry.
Blueberry.
Alors, je m'arrête un petit peu quelques instants sur cette série et ce personnage parce que je crois qu'il y a eu un avant et un après Blueberry. Pour résumer, Blueberry, ben, c'est un lieutenant un peu tête brûlée de l'armée américaine. Il va vivre des aventures où il risquera sa vie plus d'une fois face aux Indiens, aux tuniques bleues, hors la loi. Mais sa soif de justice et son ingéniosité vont l'aider à se sortir des situations les plus dangereuses. Alors le succès et le caractère référentiel de cette saga est surtout dû à des planètes bien alignées, en fait. Eh oui. Alors déjà, c'est la rencontre entre un scénariste, Jean-Michel Charlier, qui à l'époque a déjà signé plusieurs séries, dont Bugs Dany, Tanguy la Verdure, Surcouf, Valardi, etc. Et puis Jean Giraud, le jeune dessinateur, qui est un artiste en devenir. Et donc là, c'est une rencontre un peu spectaculaire. Les deux adorent l'Amérique. Ils ont réalisé d'ailleurs plusieurs voyages de leur côté et en sont revenus avec une envie forte de construire des histoires de cow-boys. Et surtout, ils ont une grande empathie pour le peuple amérindien. Ils travaillent aussi tous les deux pour le journal Pilote, hein, qui est le magazine phare à l'époque. Et il a été créé, ce journal Pilote, en 1959 par, entre autres, Jean-Michel Charlier, Albert Uderzo, René Guessini et d'autres. Et c'est donc là une audience extraordinaire pour cette histoire-là, auprès d'un public de jeunes ados. Et puis, les années 60, c'est les années yéyé. C'est la jeunesse et l'adolescence des baby-boomers, et donc une certaine forme de liberté et d'excentricité. Et puis c'est la nouvelle vague du cinéma français,
eh oui.
François Truffaut, Jean-Luc Godard. Et c'est aussi une période charnière entre le western hollywoodien, jusque dans les années 50, et le western spaghetti,
oui.
Début des années 60.
Clint Eastwood.
Oui, ouais. Et puis New Morricone, etc. Quoi. Et tout cela, et d'autres choses bien sûr, vont contribuer au fil des années, au fil des 28 albums de la série, des 24 albums de la série La Jeunesse de Bulbury et d'autres éléments un petit peu satellites, à camper un personnage qui est maintenant perçu un peu comme le boss du cow-boy dessiné. Et vous avez constaté que c'était 63 et qu'on est en 2023. Alors si vous avez...
Bien calculé.
Donc au mois d'octobre que nous fêterons les 60 ans du taulier Blueberry. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus sur Blueberry et Giraud, vous pourrez consulter notre replay du mois de mars où on en avait parlé plus longuement.
C'est vrai, il y a un truc
sur... Voilà, vous allez fouiller sur le site. Alors rassurez-vous, tout ne s'est pas arrêté après Blueberry, bien au contraire. Impossible de faire une liste exhaustive, mais certains titres ont marqué les amateurs. Alors j'aurais pu citer forcément Les Tuniques Bleues de Salvierus et Covin en 1968, Comanche par Herman, Durango de Yves Stoolff en 1981, Le Bouncer de Bouc et Jodorowsky en 2001, Marshall Bass, où le héros est un homme de loi afro-américain, La Venin, où le héros, ou l'héroïne plutôt, la Winchester comme personne, par Laurent Astier. Et voilà, donc tout un tas de westerns qui sont sortis depuis. Alors, on arrive à la fin de cette minuscule rétrospective de westerns. Sachez que si vous êtes amateur de ce genre de thème, le flux ne se tarit pas parce que chaque année voit son lot de nouvelles histoires qui se passent au beau vieux temps du Far West.
Ouais.
Mais je crois que David, tu as aussi des choses étonnantes à nous faire découvrir.
Ah bah oui, alors je vais vous parler en fait d'une BD en fait en particulier.
Oui.
Hein. C'est une découverte que j'ai faite sur une adaptation des nouvelles de Joe R. Lansdale qui s'est inspirée d'un personnage des nouvelles américaines qu'on appelait les dime novels. Et le personnage s'appelle Ned Love, et donc Deadwood Dick. C'est réalisé par des auteurs italiens au départ. Alors, le petit pitch rapide, c'est Deadwood Dick qui est. Alors, c'est un soldat nord-américain, un soldat qui est devenu soldat. Il manque de se faire lyncher parce qu'il a osé lever les yeux sur une femme blanche. Alors, à l'époque, ça ne se fait pas. Afin de sauver sa peau, il s'engage dans l'armée et devient un soldat du 9e de cavalerie US. Qu'on appelait les Buffalo Soldiers et qui affrontait les Apaches dans les grandes plaines de l'Ouest. Il affrontera la vie de la caserne avec courage, mais également il va se retrouver face à des troupes d'Apaches. Alors c'est assez étrange parce qu'on est à la fin de la guerre de sécession. Les soldats noirs américains s'engagent dans une autre guerre contre une autre peuplade qui n'aura entre guillemets rien fait. Et c'est typique vraiment au 9e de cavalerie. Hein. Bon, sinon. À part ça, c'est ça. Et donc, je vais parler un peu des dessinateurs et du scénariste. Michele Massiero au scénario, donc un Italien, qu'on connaît sur scénariste sur Deadwood, qui a une belle carrière, aussi sur Mr. No et Dylan Dog. Hein, il a scénarisé donc pas mal de ses ouvrages. Et le dessinateur Conado Mastantuono. Excusez-moi pour le animateur fin des années 90 pour de la BD italienne, la revue Eternota, c'est une BD italienne avec Corben Moebius qui a participé oui, à cette BD italienne également.
Ah oui, okay. Oui,
un joli sommaire sur les dernières années de la revue. Il a bossé pour Disney également, donc c'est comme un dessinateur qui est assez prolixe. Il a bossé sur Nick Raider aux éditions Claire de Lune, Esprit du Vent aux éditions Forbid, une aventure de Tex aussi chez Black and White qu'on peut se procurer, mais qui est une édition un peu collector qui est sortie en Kickstarter, je crois. Et Elias le Maudit en 3 tomes. Donc vous voyez, c'est un dessinateur qui met vraiment tout à fait en avant le travail de cette série. Alors au départ, moi, j'avais pas trop accroché au style de dessin, qui me semblait un peu taillé à la serpe, etc. Puis finalement, on s'y fait. Parce que le ton est donné, les ancrages sont magnifiques. Bon, il y a des planches qui sont vraiment superbes. Des fois, les dialogues sont un petit peu trop modernes à mon goût, je pense. Il y a des fois des tournures de phrases qui sont un peu trop modernes, mais on s'y fait. Globalement, je vous le recommande. J'ai pas lâché les yeux une seule seconde du bouquin dès que j'ai plongé le nez dedans. C'est magnifique en fait, hein, superbe. Alors, le livre d'Ed Wooddick vous offre des crédits magnifiques aussi à la fin avec un dossier. Que je félicite les éditions, bah d'accord, mais j'ai pas dit les éditions, c'était chez Paquet, que je félicite les éditions Paquet d'avoir traduit, parce que ce petit dossier apporte vraiment un éclairage tout à fait subtil sur le personnage de Nat Love en particulier, et son histoire. Alors, comme tu disais, dans ces fameuses dîmes nouvelles, dans les romans d'époque, les romans de gare, c'était un mélange de réalité, hein, des fois des biographies réelles, mais nimbées de tout un tas de folklore ajouté, soit par le biographe lui-même ou des journalistes qui rajoutaient. Donc, on ne sait plus trop si c'est la réalité, des faits vrais. Bon, ouais. Donc les gens, des fois, par contre, le prenaient pour argent comptant, véritablement. Il y avait cet aspect-là. Donc il y a 12 pages de cahier graphique à la fin. On ne lâche pas le livre, on est vraiment. Le scénario est sympa, vraiment super. Voilà, donc pour tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors, je voudrais peut-être un petit. Il y a 2 autres bouquins qui sont sortis également, mais c'est pas les mêmes dessinateurs et c'est pas le même scénariste. Alors, chaque bouquin se lit indépendamment. Alors, on peut vraiment les lire tout à fait indépendamment. Il y a une petite qualité un petit peu inférieure sur le deuxième tome que je trouve graphiquement moins forte. Et on retrouve par contre cette qualité-là sur le Black Hack. Excusez-moi. Le Black Hat Hack. Là, c'est dur à dire. Black Hat Jack. J'y suis arrivé. Donc on retrouve un très beau dessin là-dessus. Joer Randals, donc l'écrivain dont est inspiré les scénaristes pour faire les nouvelles de Black Wooddick. Il fait de la SF, du polar noir, de l'horreur, du steampunk. Et Ed Wooddick nous parle d'un homme ayant réellement existé entre 1854 et 1921. Un Nat Love, un cowboy afro-américain surnommé Ed Wooddick. Dead Eyes Dick pour certains, parce qu'il était un roi de la gâchette. Dans un concours, dans une ville qu'il a, à Deadwood en particulier, où il a débarrassé la ville de tout un tas de rats. Enfin bref, une autre histoire. Joel Randals donc a également fait des petites nouvelles écrites sur Batman. Donc il était très fan de comics. Hein, tu parlais des super héros à une certaine époque. Oui. Il les a lus parce que ses parents sont de 1900. Son père est de 1904 et sa mère de 1914. Mmh. Donc des personnes âgées. Donc lui aussi est un peu vieux, hein, on va dire. Le western pour l'auteur est une forme spéciale de narration fantastique où l'histoire de frontières et la fantasy pouvaient cohabiter. Dans les années 70, Joey Randall tombe sur les mémoires de Nat Love et ce mélange d'éléments réels et romancés. Il a cette capacité à le rendre impressionnant. Donc les fameuses 10 nouvelles, c'était des romans de gare à 4 sous. Hein, le lecteur pouvait se payer ses petites nouvelles pour quasiment rien, des vrais reportages. Elles étaient fondamentales pour raconter des histoires de l'Ouest, de ses mythes et ses folklores. Les mêmes choses pour les gangsters et les détectives d'ailleurs, qu'on va retrouver, mais cette fois-ci plutôt pour les univers urbains ou provinciaux. Nat Love donc je reviens un petit peu à Nat Love. Le Far West lui a donné de nombreuses opportunités. Ce qui comptait, c'était avant tout ce qu'était capable de faire un homme, hein, et pas tant sa couleur de peau. L'Ouest américain, même bien sûr, il faut pas l'oublier, c'était un univers un peu raciste aussi. Il faut dire ce qui est, c'est une réalité. Ce qui comptait, donc, c'était que dans l'Ouest, c'était un peu plus ouvert. Les villes regardent un petit peu moins que dans l'Est du pays. L'armée et les services militaires devenaient pour les Buffalo Soldiers une opportunité d'être payés, de combattre pendant les guerres indiennes. Il y a eu aussi des shérifs. Alors là, je vais prendre une petite anecdote. Bass Reeve, qui était un shérif noir, a également inspiré le personnage de Lone Ranger. Si vous voyez, le ranger solitaire, le Lone Ranger, qui avait Bass Reeve avait cette capacité de se cacher, de s'habiller, de se grimer pour aller capturer les brigands qui voulaient arrêter. Et donc ça a inspiré le Lone Ranger qui porte son fameux masque avec son copain indien qui est aussi un film qu'on ne retiendra pas forcément. Il y avait des politiciens bien sûr nord-américains. Donc Ed Wooddick comme je disais est un surnom qui lui a été donné parce qu'il avait gagné un concours de tir. Alors je conseille aussi, si vous avez l'occasion, en restant un peu sur la série, un film qui a été tiré de cette de, 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 de l'origine de Nat Love. The Harder They Fall, hein, c'est un drame western. Nat Love découvre que son ennemi juré, Rufus Buck, sera libéré de prison bientôt, tantôt. Il rameute ses complices, qui sont une bande de vauriens, pour le traquer et lui faire subir sa vengeance. Ce film est réalisé par James Samuel, donc il y a toute une brochette d'acteurs afro-américains, c'est super. Ça relance le genre du western, je trouve. On connaît le western spaghetti, on connaît vraiment plein de choses sur le domaine du western. Les westerns un peu
À la Hollywood.
À la Hollywood, classique, hein, John Wayne, etc. Là, ça relance vraiment le genre avec des musiques excellentes, que des acteurs noirs, c'est excellent. Enfin, je trouvais ça super, très bel hommage à cette référence. Voilà, petite
alors, merci beaucoup et pour cette découverte,
hein, Dead Book, hein, en trois volumes. Ça coûte à peu près dans les 13-14 euros, mais il y a quand même de la lecture. Franchement, c'est du bel ouvrage. Là, paquet, ils ont mis le paquet, si je puis dire.
Sinon, on peut te le piquer.
Ouais, on peut me le piquer, éventuellement, on peut l'emprunter pour la modique somme de 5 euros. Non, pas un franc de l'époque.
Sinon, il voilà. Y a une actualité aussi.
J'en parle.
Il faut qu'on en parle quand même.
Parce que Charles fait partie de l'aventure aussi. Alors, l'association Philactère s'est lancée dans un sacré périple en début de l'année 2023 pour réunir tout un tas d'auteurs sur un spécial western. C'est le collectif là, qui s'est réuni. Alors j'ai téléphoné à Charles, il m'a dit ok, je suis de la partie. J'ai téléphoné à des dessinateurs professionnels comme Benoît Blary qui ont accepté de faire partie de l'aventure. À Gilles Mesomo qui avait une actualité, il m'a dit je suis un peu pressé mais je te ferai quelque chose. J'ai Thierry Martin qui a aimablement fait un superbe dessin. Alors tous ces dessins-là sont des inédits, hein. C'est des inédits spéciales pour la revue Philactère, pour ce spécial western. Qui ai-je oublié,
Jacques Lamontagne.
Jacques Lamontagne, mon Dieu, j'ai oublié ce Jacques. Le Canadien, un monsieur que j'ai réveillé malheureusement à 6h du matin en téléphonant, ne me rappelant pas qu'il y avait un décalage horaire, voyez-vous, avec le Canada et la France.
Il
m'en a pas voulu, pas tenu rigueur, il m'a envoyé deux superbes images d'Indiens, pareil, inédites, absolument fabuleuses. Alors, je n'ai qu'une main pour
montrer Fouillet.
Ça. Il y a Pierre Fouillet, alors, effectivement, dont j'étais le voisin de table à Gerville-la-Malgrange qui m'a fait des super petits dessins exprès pour le magazine. Alors je remercie vraiment tous ces gens, toutes ces personnes. Le spécial western a vraiment très bien fonctionné au Lit sur la Place. Il y a eu une quarantaine d'exemplaires de sorties pour Lit sur la Place. Dans ce livre, vous trouverez également des jeunes auteurs, parce que l'association, on n'oublie pas son rôle, qui est de faire connaître la bande dessinée, mais également de faire venir dans son giron de jeunes auteurs qui démarrent. Donc, je suis très content d'avoir contacté Hélène, une jeune que j'ai rencontrée sur Instagram, que j'ai un petit peu suivie. Également Yuna, qui était une jeune aussi qui fait de l'animation, c'était sa première BD. Je remercie également Manolo Prolo, que je vois passer, parce que Frédéric Penet, qui m'a fait une superbe image. Alors bref, je ne tarirai pas d'éloges pour toutes les personnes, mais pas que les professionnels, aussi les membres de l'association qui se sont évertués à travailler jusqu'au dernier moment. Le maquettiste, Michel Salvino, le rédacteur en chef, sa fille qui a réalisé aussi une très belle image. Donc voilà, je trouve
on
que...
On en parlera aussi de toute façon sur la page Facebook.
Oui, voilà, on fera un petit aparté de tout ça pour prendre un peu plus le temps. Des nouvelles aussi, et je finis avec ça, des nouvelles d'auteurs professionnels qui étaient présents sur la place. Que je remercie d'avoir participé donc quatre nouvelles sur le thème western. Voilà, donc l'association est très contente de pouvoir présenter cet ouvrage avec toutes ces collaborations magnifiques. Voilà.
Ah ben super, une belle actualité. On va passer à la deuxième petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Palatine qui va nous chanter Jane.
Avoir leur entrejambe qui soudain s'amenuise, aller voir comme ils tremblent. Jane, femme de guerre, cherche homme médecine, valeureux partenaire, mais dépourvu d'échine. Si belle calamité, douce Jane d'arc-en-ciel, on dépose à tes pieds des litres de miel. On se met à hurler, se frappant la poitrine. Se met à prier, archange et Mélusine. Jane, Jane, calamité de toi, que passe-t-il à ton doigt, qui est ce fou? Jane, Jane, calamité de nous, que fait-il à ton
joli mois de mai qui dévore la prairie, ce qui en restait. Un Far West mirage grotesque, Buffalo Bill qui la force au mariage, elle, qui vit loin des villes. Je suis le pont rouge qui fait le mort. Je vois de loin cette rue et vers là. Calamité Jane, tes vertus exposées à travers la plaine, je les ai aperçues. T'es poursuivi de mes vengeances jusqu'en terre inconnue, qui nous resteront étranges. Comme ces hautes chutes d'eau, fracas continus, qui murmurent une chanson déjà entendue. Je perdrai la boussole à l'heure où le sol colle et que je n'entende plus que le silence que perce le son lointain d'une kermesse. Là-bas, ton nom résonne.
Le son des bulles sur RCN.
Voilà, donc c'était Palatine avec Jane, Jane. Et bien maintenant, Francine,
oui.
On continue dans le western, mais alors là, un western un peu local.
Bah, disons qu'on va passer un petit peu à l'est. Ah. On va quitter l'ouest, on va passer plutôt à l'est.
Allez.
Alors, le grand fer, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Le grand ou le haut?
Le haut.
Le haut fer.
C'est
le
mieux.
Fer. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le...
Comment?
En haut, en haut du taux, à Saint-Amé.
Oui. Le haut fer, d'accord.
Dans les, c'est ça?
C'est dans les,
oui. Eh ben oui.
Dans les Vosges.
Ça se passe dans les,
Vosges.
Oui, alors, donc le haut fer dans les Vosges. Alors, est-ce que c'est peut-être plus connu d'une autre façon?
Un film
peut-être,
oui, avec
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules.
Tout à fait.
Oui.
Alors évidemment, ceux qui sont jeunes ne verront peut-être pas, parce que Les Grandes Gueules, ça date quand même. Avec Les Grandes Gueules, 1965, et c'est tiré justement d'un roman, du roman de José Giovanni,
d'accord.
Qui d'ailleurs a aussi fait le film, du moins le scénario du film,
d'accord,
et qui s'appelait Le Haut Fer. Mais qu'est-ce que Le Haut Fer?
C'est une série.
C'est ça.
Une série.
Et qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres?
Ah, parce qu'elle embauche, elle emploie des repris de justice, des choses
disons
comme ça.
Disons que Le Haut Fer, c'est un système aussi. C'est tout un système, justement. C'est une série vraiment traditionnelle, hein, qui fonctionne à l'eau et tout. Et même à cette époque-là, on était déjà passé à autre chose. Et donc, effectivement, elle va embaucher
des
détenus. C'est-à-dire que donc le héros de ce de ce récit, on va dire. Hector Valentin rentre du Canada, il a hérité justement cette scierie au décès de son père. D'accord. Et puis forcément, eh bien, il ne trouve pas de main-d'œuvre, hein, puisque tout le monde préfère, parce qu'il faut dire qu'en plus de ça, on est en hauteur, c'est-à-dire que c'est dangereux aussi hein, au niveau de la schlite, etc.
Ah, oui,
et évidemment, c'est mieux payé, c'est plus mécanisé dans la vallée, donc il ne trouve pas de main-d'œuvre. Ouais. Et effectivement, il va employer
des reprises de justice, enfin
des détenus, oui. Commencer par deux détenus, il y en a d'autres qui viendront. Okay. Puis forcément, il y aura un drame, etc. Okay. Alors, voyons un petit peu justement ce qu'on dit. Alors ça vient d'être adapté en BD. Alors,
d'accord.
On peut se poser la question, hein, 1962 le roman, 1965
le film.
Pourquoi attendre jusque maintenant et quel intérêt de le sortir en BD?
Alors quel intérêt?
Alors quel intérêt? Alors justement, j'ai demandé à Frédéric Brémaud, hein, qui est le scénariste, pourquoi ça avait été adapté en BD.
D'accord.
En Italie, le film est très connu. Alors, c'est. Comment est-ce qu'il y a? Una vampata d'odio. Genre une tempête
non, vampata de violence.
Une tempête de violence. Voilà. Et ils ont pris le côté un peu pulp, ouais. un peu. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai que le non seulement il est très connu, mais en plus il y a toute une culture. Moi, je suis dans le lac de Caume, la Lombardie. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont partis dans les mines entre Mulhouse et Strasbourg. Certains dont bon, je connais des familles où les ancêtres sont partis couper du bois dans la région. Donc c'est alors il y a ce principe. Le deuxième, c'est que au même titre que 100 000 $ au soleil. Les Grandes Gueules, c'est un western. Donc l'idée de faire du western, c'est très plaisant. Et se dire, on est dans les Vosges, on n'est pas loin de chez nous, c'est intéressant de faire un genre.
Alors voilà, donc raccord avec notre thème, le western.
Okay.
Alors justement, il faut savoir que c'est vraiment une adaptation du roman, plus que du film. Parce que le film s'en éloigne un peu. Ce qui est très très intéressant justement dans la BD, c'est au niveau du graphisme. C'est un graphiste. Alors on a entendu aussi Paolo Raffaelli, hein,
ouais.
Donc qui était le dessinateur. Ce qui est intéressant, bon, c'est le graphisme qui a un graphisme très réaliste. Donc déjà bon, au niveau des paysages, bien sûr, de la Syrie. Puis aussi tous les à côté, les voitures par exemple, hein, on va retrouver,
oui,
j'ai retrouvé la dauphine de la mère de ma copine, la 4 chevaux de mon oncle, etc. Donc ça nous remet vraiment,
ça nous
non seulement
dans le contexte.
Voilà, non seulement dans un lieu, mais dans une époque, ça nous replonge vraiment dans une époque.
D'accord.
Alors on va retrouver le tandem qui est tenu par
Ventura,
oui. Et puis le nom m'échappe.
Bourville.
Comment
c'était
non, c'est pas Bourville.
Non, c'est pas
je
Bourville,
parle de Mick et de Laurent, donc okay. les deux détenus qui arrivent,
d'accord.
Qui représentent d'ailleurs un petit peu, qui sont un petit peu tirés des souris et des hommes de Steinbeck.
D'accord.
Hein, donc par justement le fait de pas vouloir se séparer. Mmh. Hein, donc on retrouve un petit peu la relation qu'il y avait entre Georges et puis ça y est, donc
un autre,
c'est dommage, le nom m'échappe, qui est représenté lui par Nénès, qui est une force de la nature. Ah, oui. Donc voilà, c'est un petit peu. Et d'ailleurs, on retrouve la référence dans le roman comme dans la BD. Hein, où à un moment d'accord. donné, dans la chambre, on voit les livres de Steinbeck, etc.
D'accord.
Donc il y a un petit peu tout ça. Et puis ce qui a été un petit peu en revanche édulcoré, c'est l'histoire d'amour entre Laurent et Adeline, qui a bon, on la retrouve un petit peu, mais elle est un peu passée sous silence. Et je me suis demandé si c'était pas parce que justement à l'époque, ça fait maintenant on considérerait ça comme un peu machiste.
Ah, donc, tu crois qu'il y a un petit vernis de
je pense que non, c'est-à-dire qu'il y a pas de vernis, mais on l'a un petit peu laissé de côté.
D'accord,
quoi.
Oui. Okay.
Hein, mais autrement, c'est vrai que ça fonctionne très bien, hein, parce qu'ils ont vraiment repris les dialogues qu'on retrouve dans le livre et non pas dans le film.
Ouais.
Des morceaux aussi de passage, etc.
D'accord.
Mais vraiment, je conseille le
offert.
Donc
de la nouveauté.
Voilà. Lui, c'est une nouveauté. Elle n'est même pas sortie encore. Elle est sortie en avant-première au Livre sur la Place.
Formidable.
Ça sortira le 20.
Alors, voilà. Est-ce que les hauts-fers, est-ce que la Syrie existe toujours, par exemple?
Ah non, elle a été brûlée.
Elle a brûlé.
Elle a brûlé. Ah, oui. Ah, elle a brûlé.
C'est même un drame. Il y a un mouvement de résistance dans le village de près de Saint-Amé. C'est pas Saint-Amé. Parce que les gens étaient. Ben c'était une relique, ce truc-là. D'accord. Et il y a vraiment brûlé. Quand ce qu'on voit dans le film, c'est.
D'accord, c'est vraiment ça.
Il a cramé complètement.
Et donc, ça a recramé de nouveau. Donc, voilà. Pour les besoins du film, il reconstruit. Pour les musées du film, ça a rebrûlé une
nouvelle. Eh bien, on passera Mirko sur la page Facebook au final. Et on va passer à l'actualité plus générale. On ferme la parenthèse western, enfin, cette grande parenthèse.
Tout à fait.
J'espère que vous en avez appris un peu plus, que vous en savez un peu plus.
Il y a des tas de choses à dire.
Et que ça vous donne envie. Mais là, on va passer à la rentrée littéraire.
Il y a un tas. Alors, vraiment, on croule sous les BD, là, et il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Bon, j'ai fait un petit tri, hein, quand même. Alors, bon, déjà, il y a les poids lourds, hein, on va parler rapidement. Il y a Titeuf, Suivez la mèche, donc, avec Expo à Saint-Malo, d'ailleurs, sur Titeuf. Il y a le journal de Tintin, 77 ans, le Lombard, qui sort également, où de nombreux dessinateurs et tout reprennent, donc, les personnages historiques qu'on trouvait dans le journal de Tintin. Va y avoir un Astérix aussi. L'Iris Blanc avec Fab Caro au scénario, qui va gentiment se moquer de la pensée positive avec Didier Conrad au dessin. Et puis Black Sad, le septième tome de Black Sad, hein, avec Canales et Guarnido, donc qui sort chez Dargo. Mais à ne pas rater, moi, mon gros coup de cœur de cette rentrée, c'est Chumbo. Alors, Chumbo de Mathias Lehmann. Alors, c'est un sacré pavé de près de plus de 300 pages, hein, qui raconte en parallèle donc, l'histoire du Brésil sur 70 ans. Et aussi, bah, c'est également là, c'est justement une saga familiale d'une famille déclassée du Brésil. Et on va suivre tout ça. Alors, avec deux frères, hein, l'un prenant parti plutôt, allant plutôt du côté communiste, hein, s'engageant de ce côté-là, l'autre au contraire. Et puis s'il a le titre de Chumbo, c'est parce que Chumbo, ça veut dire plomb. Et c'est notamment par rapport justement à ce qu'on a appelé les années de plomb, qui était la dictature militaire au Brésil. Alors c'est vraiment un petit bijou à tous les niveaux. Au niveau graphique, c'est plein d'inventions. On commence à en parler partout. Et je pense celui-là, mais ma main a coupé qu'il a des prix. Et je dis pas un prix, hein, il aura des prix.
C'est intéressant. On connaît pas grand-chose sur cette partie du monde. Enfin, nous, on est.
Alors en plus de ça, lui est franco-brésilien.
Et donc il a.
Lui est franco-brésilien. Sa mère était brésilienne, même s'il a vécu en France. Donc voilà. Et c'est somptueux, en noir et blanc, avec un graphisme fantastique.
Alors c'est enregistré, hein, Maman a coupé, qu'il aura des prix. C'est enregistré, hein, ce que.
Tu verras, Maman a coupé. De toute façon, mais je ne prends pas de risque. Hein, là, je prends aucun risque, je suis sûr.
C'est une augure. C'est une augure.
Ah, d'accord.
Alors, autre chose qui n'est pas sortie, qu'on a eu en avant-première aussi au Livre sur la Place, c'est L'Ombre des Lumières. Alors, L'Ombre des Lumières qui sortira le 20, avec Alain Hérol au scénario et Richard Guérido au dessin. C'est une splendeur. Alors, c'est simplement le tome 1. Normalement, c'est prévu pour une série en 3 tomes. Et peut-être, si ça fonctionne, mais moi, je suis sûre que ça va marcher du feu de Dieu, ils vont continuer avec des one-shots. Alors, ça se passe au siècle des Lumières. Donc, c'est une liaison, dangereuse, revue et corrigée, mais alors avec des personnages. Valmont à côté, c'est un petit joueur.
Ah, d'accord.
Donc, c'est vraiment fantastique. Ça sort le 20. Donc, de ce mois-ci aussi, je conseille. Alors, pour aller rapidement aussi, va y avoir aussi RIP. Alors, elle est sortie d'aujourd'hui. On a RIP, le sixième tome de RIP.
Le dernier.
Avec aussi une expo à Saint-Malo. Hein, une grande expo à Saint-Malo là-dessus. Donc, on y reviendra. Il y a Voleur de Feu, Damien Cuvillier qui sort dans une édition, un Canal BD, Voleur de Feu, c'est sur. Dargo, je crois. Oui, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien Dargo. Et c'est sur la vie de Rimbaud. Alors, pareil, un petit bijou. Il y a Saint-Aigle, tome 4, qui sort. Et puis, il y a Le Ciel dans la tête. Fantastique. Avec Altariba au scénario, Garcia Sanchez au dessin. Et Lola Moral, qui est sur les migrants, mais une façon particulière de voir les migrants, c'est
d'accord. Une splendeur. C'est super intéressant, ça.
C'est sorti
ça sort le 20.
D'accord. Donc,
pareil.
Eh bien, merci, Francine.
Et il y en aura encore plein d'autres, j'ai gardé pour la prochaine fois.
Pour la prochaine fois, il y a plein de surprises. Donc, on va conclure l'émission. Merci beaucoup, les amis, de toutes ces découvertes. Merci, Jean-Luc, aussi.
Merci, Olivier. Merci, Jean-Luc.
De tout ça. Merci à Julie pour le chapeau rouge. Et désolé, Mirko, de ne pas avoir pu passer la séquence, mais on passera ça sur notre page Facebook.
Pas de souci.
Le son des bulles. Voilà. Et on mettra tout un tas de choses, toutes les références qu'on a évoqué ici sur le western.
Voilà, écoutez-nous, merci encore à toutes les personnes qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas, donc le son des bulles 90.7,
oui.
Voilà, donc les replays, n'hésitez pas aussi à retourner un peu, il y a des très bonnes émissions, il n'y a pas que le western, il y en a plein d'autres, à réécouter à loisir. Voili voilou.
Merci David Bubble.
Eh ben, pas de quoi.
À la prochaine.
So long, les amis.
I'm a poor lonesome cowboy.